Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Et toujours dans la question des attributs de Dieu, nous arrivons maintenant à une nouvelle catégorie d'attributs, après avoir vu les attributs qui sont des attributs internes de Dieu. Nous avons vu ensuite une deuxième partie qui concernait les attributs de Dieu en relation avec l'univers. Et maintenant, nous arrivons à une troisième partie où il sera question des attributs de Dieu en relation avec sa nature morale. Bien sûr, Si un certain nombre d'attributs relatifs avec l'univers peuvent être plus ou moins déductibles de la théologie naturelle, telle que la définissait l'apôtre Paul dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, il est certain que les attributs qui sont en relation avec la nature morale de Dieu ne découlent que de la révélation biblique. Alors, le premier des attributs de Dieu, dans ce domaine, dans le domaine moral, c'est la sainteté de Dieu. Il est certain qu'il y a, dans la personne divine, une dimension morale absolument indiscutable. Et ceci, contrairement à ce que, aujourd'hui, on veut croire, on veut affirmer. Et tout ce qui concerne la sainteté de Dieu est aujourd'hui, y compris dans les milieux chrétiens, un des attributs qui est les plus occultés. Et pourtant, c'est le premier des attributs moraux de Dieu. Dieu est saint. À plusieurs reprises, cette affirmation revient dans la Bible. D'abord dans le livre du Lévitique, où cette expression revient comme un refrain, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Nous retrouvons ça aussi dans la vision d'Ésaïe, lorsque, dans le chapitre 6, il entend les êtres célestes qui proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. » Et bien sûr, on retrouve aussi cela dans le Nouveau Testament, dans la parole de Jésus, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quand nous disons que Dieu est saint, qu'est-ce que nous disons? Eh bien, tout d'abord, que Dieu ne peut ni pécher, mais en même temps, qu'il ne tolère pas non plus le péché, et qu'il ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas pécher, non pas que ce soit une entrave à sa liberté, mais Dieu ne péchera pas parce que c'est contraire à sa nature. Et parce que c'est contraire à sa nature, il ne peut pas non plus accepter de la part de ses créatures le péché. Et ce faisant, Dieu, le Dieu saint, va devoir juger le péché. Et il en est ainsi parce que c'est un impératif de la nature de Dieu. Dieu ne peut pas faire comme si le péché n'était pas le péché. Dieu, ainsi que il le dit à Moïse, ne tient pas le coupable pour innocent. Ce n'est pas possible. C'est contraire à sa nature. Il ne le fera pas. Parce que ce serait se renier lui-même. Ensuite, lorsque nous disons que Dieu est saint, nous disons qu'il est aussi séparé. Kadosh, en hébreu, ça signifie séparé. Séparé de quoi ? Séparé en nature et en caractère de sa création. Et cette séparation est due au fait que Dieu est parfait. Il y a une perfection divine qui élève infiniment la personne divine au-dessus de toutes les créatures qu'il peut avoir façonnées. Ce qu'exprime un prophète quand il dit « Dieu » c'est Job qui dit cela, si Dieu trouve de l'imperfection dans ses anges, alors que ne trouvera-t-il pas dans l'homme ? Fait de poussière. Dieu est infiniment élevé en sainteté au-dessus de ses créatures. Et c'est ainsi que dans la vision d'Ésaïe à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, les anges, les séraphins, ont des ailes dont ils se voilent la tête, les yeux, pour ne pas regarder la sainteté de Dieu. Donc Dieu est infiniment saint. Bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer et bien au-delà de ce que l'homme peut penser. Et précisément cette perfection divine fait que Dieu est radicalement différent de ses créatures. Il est différent, il est séparé, précisément par cette différence, cet abîme qui le sépare des plus parfaites de ses créatures. Et cet abîme, c'est sa sainteté. En fait, nous pourrions dire que la sainteté de Dieu est la nature divine elle-même. S'il n'y a pas cette sainteté, il n'y a pas de personne divine. Or, ce que nous remarquons dans la Bible, c'est que chaque fois que Dieu se révèle, quelle que soit la nature de sa révélation, ce qui impressionne le plus et immédiatement la créature à laquelle il se révèle, c'est la sainteté de Dieu. Prenez tous les exemples bibliques et c'est toujours l'aspect premier qui ressort. Et ce faisant, lorsque Dieu se révèle, il sanctifie sa créature. Sa créature ne peut pas rester indifférente en face de la sainteté de Dieu. Tout ce qui vient en contact avec la personne divine se trouve ainsi sanctifié, y compris les objets. Par exemple, les objets du tabernacle, le tabernacle lui-même, puis ensuite le temple, après que le Seigneur soit venu dans son temple, dans son tabernacle, ces objets ont été sanctifiés, c'est-à-dire séparés de l'usage profane éventuel auquel ils auraient pu être consacrés, pour être uniquement consacré au culte de Dieu, au service de Dieu. Dieu est celui aussi qui, dans sa révélation, se sanctifie aux yeux de ses créatures. Ça veut dire celui qui se révèle comme saint. Et c'est la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom, c'est la personne même de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, dit Jésus. C'est-à-dire que tu te révèles aux hommes dans ta sainteté, que cette sainteté-là soit visible, soit manifestée aux yeux des hommes. Et c'est alors que lorsqu'ainsi Dieu est sanctifié aux yeux des hommes, les hommes le sanctifient, c'est-à-dire l'honorent. l'honore dans cette perspective, non pas avec légèreté, non pas comme quelque chose de banal, mais comme quelque chose d'infiniment saint, d'infiniment redoutable en même temps, et duquel on ne peut pas s'approcher sans s'être soi-même profondément remis en question. Autrement, le culte qui est rendu au Seigneur n'est qu'un culte où le nom de Dieu est profané. Et c'est pourquoi, dans la prière, et je reviens au Notre Père, la première démarche, qui est celle de celui qui adore, de celui qui prie, c'est qu'il cherche à sanctifier le nom de Dieu. Autrement, tout le reste est sans importance. Autrement, s'il n'y a pas cette attitude de sanctification, comme on dit un petit peu familièrement dans les milieux évangéliques, la prière ne va pas dépasser le plafond. Il faut que les hommes qui s'approchent de Dieu, les créatures qui s'approchent de Dieu, sanctifient le nom de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu. Et si ensuite, il peut y avoir sainteté des créatures, c'est uniquement dans la mesure où il y a parenté avec Dieu. Et là, nous pouvons dire que c'est dans ce sens aussi que l'homme est vraiment une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Parce que l'homme lui-même est appelé à être saint. Vous serez saint, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. L'homme peut être saint parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Il est la seule créature terrestre qui est ainsi appelée à devenir sainte. Autrement qu'une sainteté passive, simplement parce que la présence de Dieu a visité telle réalité, cette dernière, eh bien, est consacrée à un usage particulier. Mais la sainteté à laquelle est appelée la créature humaine va beaucoup plus loin que cela. Il est appelé à manifester aussi dans sa vie la perfection morale qui est attachée à la sainteté de Dieu. Les animaux ne peuvent pas connaître cette sainteté-là, parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. L'homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, est appelé à être saint, comme le rappelle l'apôtre Pierre, je crois, dans une de ses épîtres. Et cette sainteté à laquelle l'homme est appelé, c'est aussi une mise à part. Mise à part pour être consacré, pour vivre pour Dieu et pour vivre selon une loi qui est une loi morale, la loi de la sainteté de Dieu. Et la notion de loi morale découle précisément de la sainteté de Dieu. C'est parce que Dieu est saint qu'il se doit de donner des repères dans ce domaine, pour que l'homme puisse être saint. Et lorsqu'aujourd'hui, précisément, on s'efforce, jusque dans les milieux chrétiens, de faire disparaître la notion de loi morale, c'est parce que l'on a perdu de vue la sainteté de Dieu. Et c'est parce qu'en même temps, on n'est plus capable de prier, comme Jésus l'a enseigné, que ton nom soit sanctifié. Lorsque l'on retrouve la dimension réelle de l'adoration, immédiatement revient la notion aussi de loi morale. Dans tous les réveils, c'est quelque chose que l'on constate. Maintenant, lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, qui se manifeste dans cette perfection morale qu'est la sienne, il faut préciser que Dieu n'est pas atteint par le mal. Il n'est pas affecté par lui. Un des amis de Job le lui rappelait. Si tu pèches, tu ne te fais de tort qu'à toi-même. Si tu es juste, tu ne fais à Dieu aucun bien. Tu es le seul à en retirer un bénéfice. Dieu n'est pas atteint directement par le mal et par le péché de l'homme. Si ce n'est précisément dans son honneur. Mais il n'est pas lui-même victime des conséquences du péché et du mal de l'homme. Et Dieu, si lui-même est en dehors de la sphère d'attraction du mal, eh bien, l'est par un acte permanent de sa volonté. Dieu ne tente personne, dira l'apôtre Jacques, parce que lui-même n'est pas tenté par quoi que ce soit. Le mal n'a aucun attrait, n'a aucun impact sur Dieu. Dieu est le mal, et c'est précisément un des traits de sa nature. Dieu a une haine absolue pour le mal, pour le péché. Et nous retrouvons cet aspect dans la personne de Jésus, le Fils incarné de Dieu. De lui, il est dit, dans l'Épître aux Hébreux, « Tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. » Et Paul dira que le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Ou c'est Jésus même qui le dira, je crois, peu importe, pour détruire les œuvres du diable. Il y a donc une haine absolue, une incompatibilité absolue, comme entre l'eau et le feu, entre la personne de Dieu, sa sainteté, et ce qui est le mal, ce qui est le péché, et ce que sont les conséquences du mal aussi sous toutes ses formes. C'est-à-dire la souffrance, le péché et la mort. Dieu est ces choses. Dieu ne peut pas les supporter, ne peut pas les tolérer. Il faut que d'une manière ou d'une autre, ces réalités-là soient vaincues. Autre aspect, si Dieu agit de cette manière-là, c'est par un acte, disons-nous, permanent de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu a choisi de toute éternité et qu'il ne cesse de choisir de rechercher ce qui est bien, ce qui est parfait et de haïr ce qui est mal, ce qui est imparfait, ce qui est limité. C'est un acte de sa liberté permanent. Mais Dieu ne fera jamais autrement, parce qu'encore une fois, ce serait contraire à sa nature. Dieu ne voudra jamais autre chose que cela. Dieu ne voudra jamais autre chose que ce qui est juste, que ce qui est bien. Et ça aussi, c'est une réalité dont nous devons être constamment conscients, parce que ça a des conséquences pratiques dans la représentation que nous nous faisons de Dieu. Eh bien, les gens, souvent, ont une représentation faussée de Dieu. Comme si Dieu était capable de vouloir et de poursuivre quelque chose qui était mauvais. Vous savez, dans la sagesse populaire, on entend souvent des gens dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que Dieu m'en veuille comme ça ?» vous voyez des expressions de ce genre, on avait entendu. Et là, il nous faut revenir à ce que disait Jacques. Dieu ne tente lui-même personne, parce qu'il n'est pas lui-même tenté par le mal. Tenté au sens large du terme, c'est-à-dire aussi éprouvé. Dieu n'est pas l'instigateur du mal, jamais. Dieu n'est pas celui qui envoie la souffrance. Dieu n'est pas celui qui envoie la maladie. Dieu n'est pas celui qui envoie les troubles, les catastrophes, les choses semblables. Ce n'est pas Dieu qui fait ces choses. Et c'est une conception erronée de Dieu de penser que Dieu puisse vouloir le mal, la souffrance. Dieu, quand nous aurons l'occasion d'étudier la providence de Dieu, nous verrons que Dieu permet ces choses. Il les permet en vue d'un meilleur. Mais Dieu ne les veut pas et Dieu ne les envoie pas. Bien sûr, il y a dans l'Ancien Testament certains textes qui pourraient le laisser croire, qui pourraient laisser penser que Dieu est l'auteur de ces choses. En réalité, la révélation du Nouveau Testament nous montre qu'il n'en est rien. Dieu permet. Dieu laisse un certain nombre de lois spirituelles jouer. Et précisément à cause de sa sainteté. Parce que il se doit de laisser, de juger, de faire en sorte que soit jugé le péché, que soient jugés ceux qui sont les responsables de ces choses. Alors il y a des lois qui jouent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est une loi spirituelle. Comme la loi de la gravitation. Si vous jetez le troisième étage de la tour Eiffel, bien vous vous écraserez parce que c'est une loi spirituelle. C'est une loi naturelle, pardon. Dieu, à la limite, n'est pas responsable directement de cet accident. Si vous ne prenez pas les précautions minimum dans ce domaine, eh bien celui qui pêche, il récolte ce qu'il sème. Parce que c'est une loi spirituelle. Comme la loi naturelle des semailles et des moissons. On récolte ce qu'on sème. Alors, la nature morale de l'homme, la nature morale que l'homme a en lui-même, est aussi un reflet de la sainteté de Dieu, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et en même temps une preuve de la sainteté de Dieu. Paul nous rappelle, dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qu'il y a dans le cœur de chaque homme une conscience morale. Une conscience morale, certes, obscurcie par le péché. Une conscience morale qui, de ce fait, peut être plus ou moins élastique. Mais une conscience morale quand même. L'homme a une notion innée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ceci dès son plus jeune âge. Et ceci n'a rien à voir avec une éducation morale, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Et les psychologues modernes qui cherchent justement à détruire la notion du bien et du mal, et qui enseignent qu'il ne faut pas donner aux enfants de points de repère dans ce domaine, pas leur donner le sens du permis ou du défendu, eh bien, même ainsi, on se rend compte que le jeune enfant va développer spontanément une notion de bien, un certain nombre, une conscience morale, notion de bien et de mal. Alors, il en est ainsi parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Paul dit sa conscience l'accuse et en même temps le justifie. Il y a constamment en lui un tribunal intérieur. Et il est amené à se dire, même par rapport à des normes qu'il peut s'être donné lui-même, par rapport à ces normes-là, il a fauté. Et en même temps, on est en lui la notion de responsabilité. Et bien sûr, automatiquement, cette existence d'une conscience morale en lui l'amène à poser la notion d'un Dieu qui a une nature morale. Et dans les religions païennes, les divinités, pour immorales qu'elles soient, car certaines divinités païennes sont profondément immorales, voire par exemple les divinités grecques ou romaines, n'est-ce pas ? Mais néanmoins, ces divinités, pour immorales qu'elles soient, gardent tout de même une fonction de juge devant lequel il faut rendre compte. Les Égyptiens, par exemple, avaient cette notion que, après la mort, l'âme, le ka, n'est-ce pas, eh bien, était jugée. Et il y avait toutes sortes, vous connaissez le livre des morts, qu'on a retrouvé dans les pyramides, dans les tombeaux, etc., Pharaon, un ensemble de formules qu'on devait répéter pour se justifier quand on arriverait dans l'au-delà. Je n'ai jamais dérobé ce qui appartenait à mon prochain, je n'ai jamais dit de faux témoignages, etc. Même les Grecs, que je faisais allusion tout à l'heure, avaient dans leur mythologie cette idée de ce jugement des morts. Minos, le roi des enfers, qui jugeait et qui ensuite envoyait les morts, soit dans les Champs-Élysées, le séjour des bienheureux, soit dans l'Hadès, le Tartare, n'est-ce pas, et toutes les souffrances qui l'accompagnaient. Donc, cette notion d'un Dieu qui a, ainsi que nous le disions, a une conscience profondément élastique. Parce que, dira l'apôtre Paul, son intelligence est obscurcie. Et il a travesti la vérité de Dieu. Il a violé les décrets, les vérités morales éternelles de Dieu. Mais sur le fond de la chose, même si dans la formulation il y a toute une zone assez floue, la notion de ce qui est bien et la notion de ce qui est mal existe dans tout homme. Maintenant, l'expression sociale, religieuse ou autre de ce bien et de ce mal peut varier encore que, comme l'avait remarqué par exemple le grand philosophe Kant, et beaucoup insisté là-dessus, sur la loi morale, on retrouve dans la plupart des civilisations les grands principes moraux. Le respect de la vie, le respect de la propriété d'autrui, le respect d'une certaine morale en ce qui concerne la famille, le mariage. L'institution du mariage, par exemple, est universelle. Même si, encore là aussi, il y a la polygamie, il y a le divorce, il y a des choses semblables. Mais la notion de base existe. Ce qui amène l'apôtre Paul à dire, quand les païens, qui n'ont pas de loi, font spontanément ce que la loi demande, eh bien, ils seront justifiés. Sans loi. Pourquoi ? Parce que leur conscience, il y a une loi qui est inscrite dans leur conscience et qui leur commande ce qui doit être fait. Maintenant, bien entendu, il y a aussi la possibilité, et Paul le rappelle, de perdre la bonne conscience, d'obscurcir la conscience. Parce qu'ayant connu ce qui est vrai, ils se sont détournés de la vérité. Parce que, connaissant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Alors ils ont voulu changer la vérité de Dieu. Et ça, c'est le péché par excellence des païens. Changer la vérité de Dieu. La vérité éternelle de Dieu. La vérité de la loi morale de Dieu. Ils ont voulu la changer. C'est le fait de toutes les civilisations païennes. D'où, par exemple, les excès des dieux grecs, dont nous parlions tout à l'heure, qui étaient menteurs, adultères, guerriers, meurtriers, et tout ce qu'on voudra, traîtres. Bref, tout ce que d'ailleurs Paul évoque dans son premier chapitre des Romains, enflé d'orgueil, tout ce qu'on voudra. Et en même temps, évidemment, dans la vie pratique des Grecs de ce temps-là, ça se répercutait. Ils ont changé la vérité de Dieu. Mais que dire de notre temps ? Notre temps est celui qui a poussé le plus loin cela. Ce refus de la loi morale, ce refus d'une vérité morale. Et notre temps dit, il n'y a pas de vérité morale. Il n'y a que des morales relatives. Ça a commencé au XVIIIe siècle, quand Voltaire, si ma mémoire est bonne, se moquait de précisément ce qu'il appelait vérité de ce côté-ci des Pyrénées et erreur de l'autre côté des Pyrénées. Plaisante justice, ou c'était Montesquieu plutôt, je crois qu'il disait ça, enfin des philosophes du XVIIIe, plaisante justice qu'une rivière borne, disait-il. Et ça change pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'intelligence est obscurcie. L'intelligence des hommes est obscurcie. Parce qu'ils ont rejeté la vérité de Dieu dans le paganisme. Et à partir de cela, notre siècle a dit donc qu'il n'y a pas de loi morale. Il n'y a pas de vérité morale. Il n'y a que des morales relatives qui sont culturelles. Et finalement, on peut réduire les données morales à des opinions personnelles. D'où le refus de Freud, notamment, de toute loi morale, disant que la loi morale n'existe que dans un consensus du permis et du défendu, qui est un produit de l'éducation, et que cela engendre des inhibitions, des frustrations, des névroses et tout ce qu'on voudra, et que l'homme étant naturellement bon, Rousseau, parce que l'homme n'est qu'un animal, il n'est pas créé à l'image de Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Il est un animal. Et un animal, le bien et le mal, ça n'existe pas pour l'animal. Il suit ses instincts. Vous ne pouvez pas reprocher à un loup de manger un agneau. C'est pas mal pour le loup de manger un agneau. C'est dans sa nature. C'est dans son instinct. Et il se nourrit comme ça. Dommage pour l'agneau, vous me direz. Mais tant pis, c'est comme ça. Mais à l'homme, c'est pareil, disent ces gens qui sont des pervertis. Par conséquent, si l'homme sent en lui une pulsion, un instinct, c'est ni bon ni mal. Bon, que le législateur mette un peu d'ordre là-dedans pour que ça n'aboutisse pas quand même au chaos. D'accord ? Pour que la vie en société soit possible. Mais que ça se fasse à partir d'un consensus, une discussion, une concertation. Et puis si on estime ensuite que telle et telle loi doit être changée, parce que la situation a changé, parce que les mentalités ont évolué, dans le même esprit de concertation, il faut le faire. D'où l'avortement, d'où le divorce à la carte, d'où l'homosexualité officialisée et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Non seulement ils commettent ces choses, mais bien que connaissant le décret de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui commettent de telles choses, ils les font et ils approuvent ceux qui les font. Ce qui est le comble du péché, ce qui est le comble de l'iniquité. Et bien sûr, à ce stade-là, le Dieu saint, le Dieu infiniment saint dont nous parlions tout à l'heure, ne peut pas laisser les choses impunies. Sinon, il ne serait plus le Dieu saint, il ne serait plus Dieu. Et pour pouvoir en arriver là, les hommes ont dû détourner l'oreille de la vérité, non seulement de la vérité révélée par 20 siècles de christianisme, mais également de la vérité qui est celle de leur cœur. Ils ont dû anesthésier leur conscience, ils ont dû faire taire leur conscience. Et entre parenthèses, même si on se replace sur le plan psychiatrique, purement psychiatrique, un grand psychiatre français, juif, professeur Henri Baruch, qui est un homme très âgé maintenant, et qui a suivi toute l'évolution de la psychiatrie depuis des dizaines d'années, est arrivé à la conclusion que, contrairement à ce qu'affirment justement de nombreux psychiatres, les névroses et les désordres dans la vie de bien des hommes et des femmes ne sont pas dus justement à des tabous, des choses comme ça, mais à l'anesthésie de la conscience morale. Et pour le professeur Baruch, la guérison souvent s'obtient lorsque justement on retrouve la conscience morale. Et toute sa, comment dirais-je, sa thérapie, à lui, professeur Baruch, consiste à faire prendre conscience aux hommes de cette conscience morale qui est en eux, à réveiller la conscience morale et les amener à se comporter en accord avec la conscience morale qui ainsi se réveille en eux. Inutile de dire qu'il est la risée de ses confrères athées, peu importe, il est certain que c'est lui qui a raison. Car notre siècle est peut-être le siècle le plus libéré, entre guillemets, mais à aucune autre époque de l'histoire et dans aucune autre civilisation, il n'y a eu tant de problèmes d'ordre psychique, névrose, psychose et choses semblables. Jamais les gens n'ont été aussi déséquilibrés au point de vue psychique qu'à notre époque. Pourquoi ? Eh bien, le professeur Baruch a raison. Parce qu'on a voulu tuer la conscience morale. Or, la conscience morale est une des dimensions qui fait que l'homme est à l'image de Dieu. Et c'est l'image de Dieu dans l'homme qu'on essaye de tuer quand on essaye de tuer la conscience morale. Et cette conscience morale, pourquoi s'acharne-t-on sur elle ? Parce qu'elle est la preuve, et Paul le souligne, qu'il existe un Dieu saint. Et comme l'on est Dieu, et on est Dieu parce qu'il est un Dieu saint. Pourquoi les maîtres à penser de ce temps ont-ils une telle haine contre Dieu ? Parce que Dieu est un Dieu saint. Si Dieu était le Jupiter des Grecs, qui avait autant d'aventures féminines que tel grand acteur ou autre, ça irait. Mais Dieu n'est pas Jupiter des Grecs. Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu saint. Alors, on le hait à cause de cela. Et en même temps, à la conscience morale qui est dans le cœur de l'homme, vient s'ajouter une autre dimension, la Bible. La Bible qui condamne le péché. Et lorsque l'homme vient en contact avec la Bible, la conscience morale qui est en lui se réveille. Et c'est la première conséquence de la parole de Dieu dans la vie d'un homme, c'est que soudain sa conscience morale, plus ou moins anesthésiée, se réveille. Et soudain, à la lumière de la parole de Dieu, qui est une parole sainte, à l'image de celui qui l'a prononcée, toute faiblesse de la chair, c'est-à-dire de l'homme, est condamnée. Deuxièmement, la voie de la justice est révélée. Et cette justice qui est révélée dans la Bible apparaît bien au-delà, bien supérieure à toutes les lois humaines. Et ainsi que le dit l'apôtre Paul dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, au contact de cette loi morale parfaite, comme l'avait noté le psalmiste dans le psaume 19, qui est révélé dans la Bible, l'esprit de l'homme trouve une joie, trouve un acquiescement à cette loi. Mon esprit, dit l'apôtre Paul, reconnaît que le commandement est bon, saint et juste. Et je prends plaisir à cette loi selon l'homme intérieur. Mais je trouve, hélas, en moi une autre loi qui me rend captif de la loi du péché et de la mort qui est en moi. Mais quant à mon homme intérieur, je prends plaisir à cette loi. Et à moins d'être totalement perverti, comme c'est le cas de bien des hommes aujourd'hui, eh bien, la première réaction de l'homme, c'est de dire, eh bien, ça c'est vrai, voilà ce qui est. Et c'est pourquoi on disait de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pourquoi, devant les béatitudes, devant le sermon sur la montagne, comme devant les 10 commandements, eh bien, l'homme est absolument subjugué, si j'ose dire, parce que là, tout est dit. On ne peut rien ajouter. Là, il y a la révélation de la perfection de Dieu. Seulement maintenant, quant à la mettre en pratique, ça, c'est autre chose. Mais l'homme prend plaisir à la loi de Dieu dans son être intérieur. Maintenant, la Bible va plus loin. Non seulement elle exprime ce qu'est la voie de la justice, mais en même temps, elle montre les bienfaits qui en résultent pour celui qui choisit le chemin de la justice, les promesses de Dieu, et à l'inverse, le jugement de Dieu sur les impies. Et c'est là que naît le problème. Mais, comme l'a souligné l'apôtre Paul, si la Bible se contentait de cela, elle placerait l'homme devant le désespoir. Car si dans un premier temps, l'homme prend plaisir à la loi de Dieu dans son être intérieur, dans un deuxième temps, il prend conscience de la loi du péché de la mort qui est en lui et qui l'empêche de pratiquer cette loi qu'il a pourtant reconnue comme vraie et qu'il a pourtant reconnue comme juste. Et dans cette situation-là, l'homme a deux possibilités et seulement deux. Soit alors rejeter cette loi qu'il a reconnue pour bonne et qu'il a reconnue pour vraie. Détourner l'oreille de la vérité. Et ça, c'est ce que font les impies, et plus particulièrement les impies de ce temps. Car tout homme, quelque peu honnête, reconnaîtra, comme Paul le dit, que le commandement est saint, juste et bon. Mais ou bien, devant l'exigence de cette loi, il s'en détourne, et par mille et une mauvaises raisons, il tente de la discréditer. Ou bien alors, il cherche une voie de salut. C'est-à-dire comment vaincre cette loi du péché de la mort qui est en lui. Et c'est l'autre aspect du message biblique. L'œuvre de la rédemption est aussi révélée. L'homme, c'est vrai, est incapable, par ses propres forces, de répondre à cette vocation d'être saint comme l'Éternel Dieu est saint. Mais en Jésus-Christ, Dieu lui en donne la force, par la mort et par la résurrection de Jésus. Maintenant, si Dieu n'était pas saint, l'état de péché des impies ne les tourmenterait pas. Mais précisément, l'impie, et c'est le propre de l'impie, ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur. L'impie est un homme continuellement tourmenté. Est un homme qui est continuellement en guerre avec sa propre conscience. Et c'est ce que le professeur Baruch a mis en évidence. Et sans cesse, il est obligé de museler. Il est obligé de bâillonner cette conscience qu'il accuse. Il est poursuivi par cela. Vous connaissez sûrement dans la légende des siècles cette mise en scène de Victor Hugo sur l'histoire de Caïn. C'est absolument remarquable. Caïn qui a tué son frère et qui s'enfuit dans la face de Dieu. Et Caïn est poursuivi constamment où qu'il aille. Il est poursuivi par l'œil de Dieu qui le regarde. Et qui est, bien entendu, un rappel constant de son péché. Et toute l'histoire ultérieure de Caïn, selon ce que Victor Hugo a imaginé dans la légende des siècles, est l'histoire de cette fuite de Caïn qui essaie d'échapper au regard de Dieu. Alors, Caïn comme c'est écrit dans la Bible, construit une ville et il essaie de se mettre là-bas des murs épais pour que le regard de Dieu ne puisse plus l'atteindre. Et malgré l'épaisseur des murs, eh bien Dieu est là et il voit l'œil de Dieu. Et finalement, Caïn construit donc des enfants, il devient un peuple important, nombreux, etc. Toujours pour échapper au regard de Dieu, et toujours il y a cet œil-là qui le poursuit. Et à la fin, n'en pouvant plus, Caïn demande à être en quelque sorte enfermé dans une espèce de tombe profonde et obscure pour que le regard de Dieu ne puisse plus l'atteindre. Et le poème se termine ainsi, vous connaissez ce vers de Victor Hugo, alors que la tombe avait été scellée sur le vieillard qu'il était devenu, et que ses enfants, ses petits-enfants là-bas disaient, maintenant au moins il est tranquille. Le poème se termine ainsi, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Enfin, c'est en même temps le psaume 139, on n'échappe pas au regard de Dieu. Mais c'est merveilleusement dépeint la situation finalement de l'impie. Il n'y a pas de paix pour lui. Constamment, il a beau faire, il a beau dire, il y a cet œil de Dieu. Et finalement, il y a ce désir d'étourdissement dans l'homme. Pascal aussi l'a très bien montré dans les pensées. Le désir du divertissement pour ne pas penser, ne pas s'arrêter, ne pas être seul avec soi-même, ne pas être seul avec sa conscience. Et c'est un des traits aussi de notre temps. L'agitation fébrile dans laquelle vivent des milliers et des milliers de personnes qui commencent dès le matin quand on ouvre le poste de la radio ou même le poste de la télévision déjà maintenant, n'est-ce pas ? C'est pour ne pas être seul avec soi-même. Parce que quand on est seul avec soi-même, on est pris de vertige. Et ceci est la preuve qu'il existe un Dieu saint. Et c'est pourquoi nous arrivons à cette notion, ce besoin. Devant, en même temps, cette dépravation de l'homme, qui en face de la sainteté de Dieu, soudain prend conscience de ce qu'il est, et en même temps prend conscience, et c'est le deuxième aspect. Ou bien l'homme, encore une fois, rejette cette loi morale de Dieu, ou bien alors, il prend conscience du besoin d'un sacrifice unique et infini pour restaurer le pécheur dans la sainteté qu'il a perdue. Et à ce moment-là, le pécheur s'ouvre à l'œuvre du Saint-Esprit, qui opère en lui trois choses, quatre même, le pardon de ses péchés, une nature nouvelle qui lui est donnée, une nature sainte, la grâce imméritée de Dieu pour vivre une vie nouvelle, et enfin on peut ajouter au dernier jour, lors de la parousie, la transformation de ce corps pécheur et mortel par conséquent, en corps de gloire, en corps qui ne pourra plus pécher, qui sera à l'image de Dieu. Dieu est saint. Et maintenant, nous pouvons faire un pas de plus et dire une autre proposition, avancer une autre proposition. Dieu est saint et reste saint, bien qu'il crée des créatures faillibles, capables de pécher, parce que la sainteté de Dieu exige la liberté de ces créatures-là. Et le fait qu'il y ait des créatures pécheresses en révolte contre Dieu n'atteint en rien la sainteté et la perfection de Dieu. S'il y a un Dieu, disent les impies, pourquoi Dieu permet-il ces choses ? Autrement dit, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas saint. Et il n'est pas saint parce qu'il crée le mal, il permet le mal. Non ! Dieu est saint, bien qu'il y ait des créatures qui soient sorties de ses mains et qui soient faillibles. Parce que cette sainteté de Dieu exigeait que ces créatures-là soient des créatures libres. Et dans la mesure où librement ces créatures ont choisi de se révolter contre lui, donc ont choisi le péché, eh bien Dieu ne peut pas être tenu pour responsable du mal qui en découle et qui en résulte. Encore une fois, chacun sème, chacun récolte ce qu'il a semé. Dieu est saint parce qu'il est libre. Dieu est saint parce qu'il choisit toujours librement ce qui est juste, ce qui est bien. Et j'ajouterai aussi ce qui est beau. C'est pourquoi, par exemple, dans le domaine de l'art aujourd'hui, la dégradation de l'art dans tout ce qui est laid, que ce soit pour ce qui concerne les arts plastiques, que ce soit ce qui concerne la musique, eh bien, montre que là, il y a quelque chose de profondément dégradé. Donc, dans la mesure où Dieu est saint parce qu'il est libre, et dans la mesure où les créatures qu'il a façonnées étaient aussi appelées à être saintes, il fallait qu'elles soient des créatures libres. Adam et Ève n'ont pas été créés saints. Qu'est-ce à dire ? Elles ont été créées, et ils ont été créés, appelés à être saints. Ils ont été créés innocents, c'est-à-dire le péché n'était pas en eux, mais ils n'étaient pas saints. Parce qu'on ne peut être saint que librement. On ne peut être saint que lorsque l'on a répondu librement à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu, à la loi morale de Dieu. Et c'est pourquoi, par exemple, l'enfant, le jeune enfant, aujourd'hui qui naît, peut être déclaré innocent, mais pas saint. N'est pas saint. Appelé à être saint, mais pas saint. Et dans la mesure où Adam et Ève ont choisi une autre voie que cette voie de la sainteté, non seulement ils sont devenus des pécheurs, mais ils ont aussi perdu leur innocence. Lors de la nouvelle naissance, quand un homme naît de nouveau en Jésus-Christ, il retrouve dans la nouvelle naissance la situation qui était celle d'Adam et Ève. Mais il est appelé, à partir de ce moment-là, à la sainteté. Et c'est l'œuvre de la sanctification qui est l'œuvre de toute une vie, qui nous conduit à répondre à la vocation qui nous est alors adressée. Dieu, il est vrai, a préconnu la chute d'Adam. Il savait qu'il choisirait ce qui est mal. Et là, précisément, on touche un des problèmes théologiques les plus profonds qui soient. Si Dieu, le Dieu saint, a su dans sa préscience éternelle, son omniscience, que nous avons étudié ensemble la dernière fois. Si Dieu a su d'avance ce que serait le choix d'Adam et d'Ève, et les conséquences qui en découleraient pour l'humanité tout entière, si Dieu savait qu'alors il y aurait ce déchaînement de souffrance et de mal que Dieu encore une fois est, dans sa sainteté, pourquoi a-t-il créé Adam et Ève ? Pourquoi a-t-il permis que soit qu'il y ait ainsi des êtres libres qui entraînent par leur choix que Dieu a connu d'avance une telle série de catastrophes? Et on a parfois tiré de cela un argument contre la sainteté de Dieu. Encore les pécheurs aujourd'hui, c'est implicite. Eh bien, la réponse, la trouvons dans l'Apocalypse, où il est question de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. La réponse, c'est Golgotha. Car Golgotha, et ça, il faut que ce soit très clair dans nos esprits, n'est pas une échappatoire que Dieu a trouvée pour se sortir de cette espèce de chaos dans lequel s'était enferrée sa création. ça n'était pas, comment dirais-je, un rattrapage au dernier moment d'une situation qui avait échappé à Dieu. Mais c'était un plan prédéterminé de toute éternité. Avant la création du monde, déjà, l'agneau avait été immolé dans le dessein éternel de Dieu, dans la pensée éternelle de Dieu. À cause du plan de salut. À cause du bien final qui en résulterait. Et à cause de ce bien final à venir, ce que Paul appelle justement la gloire à venir, il valait la peine d'accepter pour la créature appelée à une si haute destinée, ce que Paul aussi, dans le même chapitre 8 de l'Épître aux Romains, appelle les légères afflictions du temps présent. Évidemment, quand on est dedans, les légères afflictions du temps présent ne sont pas si légères que ça, on dira. Mais au regard de la gloire à venir, au regard de l'éternité, eh bien, ça paraît comme étant de légères afflictions. Et Dieu a sacrifié, pourrais-je dire, le bien en vue du mieux. Le bien immédiat, le bien passager en vue du mieux. Alors, un autre problème qui est dépendant aussi de la sainteté de Dieu, c'est le problème de l'enfer. Dieu, le Dieu saint, peut-il accepter que ses créatures qu'il aime puissent souffrir une éternité en enfer? L'enfer est-il compatible avec la sainteté de Dieu? L'enfer, et nous verrons, retrouverons ce problème lorsque nous étudierons l'amour de Dieu, est-il compatible avec l'amour de Dieu? Pour l'amour de Dieu, ça paraît évident. Enfin, ça paraît évident. Le problème, en tout cas, paraît évident. Mais le problème se pose aussi en fonction de la sainteté de Dieu. L'enfer n'est-il pas un mal? La souffrance absolue, la seconde mort, la souffrance éternelle des réprouvés, c'est un mal. Le Dieu saint peut-il accepter cela? Et la réponse est encore dans la liberté. Il n'y a pas de sainteté sans liberté. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est la situation d'hommes qui ont choisi délibérément et en toute connaissance de cause ceux qui ont refusé la vocation de Dieu à l'être saint. Ceux qui ont refusé leur vocation d'homme. Ceux qui ont fait taire la conscience, la loi éternelle que Dieu avait mise dans leur cœur. L'endroit où ceux qui l'ont rejeté délibérément, lui Dieu, seront loin de lui pour l'éternité. Dieu, face à la chute et au péché de l'homme, avait prévu le remède, nous l'avons dit tout à l'heure, l'agneau immolé de toute éternité avant la fondation du monde. Mais si l'homme pécheur refuse le remède que Dieu a prévu à son péché, il ne reste plus qu'une seule solution pour Dieu, c'est de punir le pécheur qui s'est identifié volontairement à son péché. Ou bien alors Dieu n'est plus saint. Si Dieu ne peut pas punir ce qui volontairement et délibérément ont refusé de se tourner vers lui, ont fait ce qu'ils savaient être condamnés par Dieu, tout en étant conscients des conséquences, alors Dieu ne serait plus un Dieu saint. Car malgré Golgotha, la position de Dieu vis-à-vis du péché ne change pas. Golgotha n'est pas une manière pour Dieu de nier la réalité du péché. Le péché reste le péché. le péché est passible de mort et il le reste, y compris dans la perspective de Golgotha. Mais en Jésus-Christ, au travers de sa mort expiatoire, il y a pour l'homme possibilité d'échapper aux conséquences de son péché, dans la mesure où il se désolidarise de son péché et où il laisse l'œuvre de Dieu s'accomplir en lui. S'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, il reste sous la condamnation du péché. Maintenant, il y a une autre conséquence. Dieu ne voit pas le péché de la même manière chez le pécheur et chez le croyant. Bien que pardonné, bien que lavé par le sang de Jésus, le croyant reste un pécheur. Il pêche encore. Premièrement, première remarque qu'on peut faire, c'est que son péché n'est pas de la même nature que le péché de l'impie. Chez le croyant, le péché est un accident. Chez le pécheur, impénitent, c'est une disposition, c'est un état d'esprit permanent.